pense qu'on exagère l'opposition entre le Dieu que nous révèle pleinement Jésus-Christ et les représentations de Dieu qu'on avait auparavant. C'est vrai que dans l'Antiquité païenne notamment, les dieux sont rarement des bienfaiteurs, ils sont ou bien indifférents au sort des hommes, ou bien carrément déclenchent des guerres, des tremblements de terre, et ils foudroient leurs adversaires. Le dieu des armées dont on parle dans l'Ancien Testament, en fait, ces armées sont les étoiles, les astres. C'est un dieu qui est déjà révélé dès l'Ancien Testament comme lent à la colère et plein d'amour. Donc je crois qu'il ne faut pas exagérer le contraste. C'est vrai que avec le temps, et pas simplement dans la religion chrétienne, l'image qu'on se fait de Dieu, c'est devenu un Dieu bon. Et du coup, on se dit, puisqu'il arrive des tsunamis, des génocides, des massacres, des inondations, alors ce Dieu bon, qui les laisse se produire, et forcément, eh bien, il n'est pas tout puissant. Sinon, on considère que ça fait longtemps qu'il aurait dû intervenir pour contrer toutes ces destructions extrêmement cruelles.
Alors dire que puisque le mal existe, c'est que Dieu n'est pas tout-puissant, est-ce de l'anthropomorphisme ?
On réagit de façon effectivement anthropomorphique, c'est-à-dire qu'on réagit comme nous le ferions si nous avions la toute-puissance. Et c'est vrai que si nous avions, nous, la possibilité d'empêcher les catastrophes de se produire, nous le ferions. Je dirais même d'ailleurs, non seulement nous le ferions, mais nous devrions le faire. Et effectivement, le pouvoir qui est donné à l'homme, le pouvoir en bien, il doit toujours l'exercer. Mais Dieu n'est pas dans la situation d'une créature qui a le devoir de choisir la vie et de la servir du mieux qu'il peut. Dieu est créateur. Et s'il donne à ses créatures ce cadeau inouï de la liberté, alors il serait absurde que Dieu à la fois donne à certaines créatures la liberté et dès qu'elles s'en servent mal, suspende cette liberté. Car ce serait un monde de marionnettes, un monde d'automates, qui serait d'ailleurs assez beau, hein, c'est-à-dire que nous serions tous des anges non rebelles, entièrement soumis à une obéissance totalement confiante, mais ce ne serait même pas une obéissance, puisque de toute façon, nous n'aurions pas le choix. Nous serions programmés pour faire le bien, et donc est-ce que ce serait encore un bien ? Non, ce serait un réflexe totalement conditionné. Donc je pense que lorsqu'on tire argument des catastrophes humaines ou naturelles pour dire que Dieu n'est pas tout-puissant, nous réagissons avec nos réflexes. Le réflexe de l'homme, c'est casser la gueule à ses ennemis, si vous me permettez l'expression. C'est détruire toute adversité. Dès que j'ai le pouvoir, je me débarrasse de mes ennemis. Eh bien, ça, ce n'est pas la façon dont Dieu en use vis-à-vis des êtres humains. Et je crois que le Christ lui-même est venu révéler que l'amour de l'ennemi, la patience envers celui qui me fait du mal, est la meilleure façon de préparer la victoire de l'amour créateur et rédempteur sur le péché, l'orgueil, la jalousie.
Alors vous invitez le lecteur à faire une expérience, celle d'un simulateur de toute puissance, en vous inspirant du film Bruce Tout-Puissant. Que nous révèle alors cette expérience ?
Si nous avions la toute puissance, comment l'utiliserions-nous ? Quelle maladie nous supprimerions ? Quelle autre maladie nous supprimerions pas ? Pourquoi ? À partir de combien de meurtres interviendrions-nous ? À partir de combien d'enfants maltraités ou battus ou violés nous interposerions-nous ? Et je m'aperçois que, aussi choqués que nous puissions l'être par ces calculs macabres, nous ne pouvons pas donner une réponse au « à partir de quand ». Il n'y a pas de seuil de tolérance devant la malice ou la maltraitance ou les catastrophes. Et par conséquent, je dirais que cette question « à partir de quand intervenir ?» elle est sans réponse. Il y a bien un mystère du mal, pourquoi Dieu laisse le mal se produire. Mais là, saint Augustin, et c'est repris par le catéchisme dans le paragraphe 311, nous dit très bien que Dieu ne laisserait jamais un mal quelconque se produire s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. Donc évidemment, Dieu ne veut pas le mal. Il y a un bon nombre de destructions que Dieu n'a pas voulu. D'ailleurs, l'Écriture nous le dit aussi, hein, c'est le livre de la Sagesse qui nous dit que Dieu n'a pas fait la mort. C'est par la jalousie du démon que la mort est entrée dans le monde. Et le Christ, dans sa parabole du bon grain et de l'ivraie, reprend cela. L'ivraie qui risque d'étouffer la récolte. Jésus dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Mais il laisse patiemment pousser l'ivraie avec le bon grain, parce que le véritable jugement est d'un autre type que simplement écraser l'adversaire et empêcher à toute liberté de s'exprimer contre son créateur.
Alors, pour Simone Veil, la création est une abdication de la toute-puissance de Dieu, une renonciation à être le tout dans le tout. Peut-on dire que Dieu renonce alors à exercer sa toute-puissance ?
Si l'on accepte de dire que la permission du mal implique que Dieu n'est pas tout-puissant, alors je pense qu'on entre dans un cycle de désespérance. Comment puis-je encore prier Dieu de me donner la vie éternelle, de réparer tout ce qui aura été fautif dans ma vie, s'il n'est même pas capable de tenir sa création dans des limites convenables? Il est vrai que ces limites nous semblent, la plupart du temps, franchies d'une manière irréparable, mais s'il est le maître, c'est parce qu'il a peut-être mieux à nous proposer. Et je voudrais citer encore, pour ceux qui ne seraient pas convaincus que l'Église a raison de maintenir dans son credo la foi en un Dieu tout-puissant, je voudrais citer ce témoignage extraordinaire du Christ lors de son arrestation. C'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 26, verset 53. Il est arrêté, ses disciples et Pierre se dégainent pour défendre, pour dire « mais je suis du bon côté, donc je vais faire du mal à mon ennemi ». Jésus dit « rentre ton épée ». Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Et cette très belle question du Christ nous dit, lorsque Dieu n'intervient pas, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas intervenir, mais parce qu'il ne veut pas intervenir. Il souhaite avoir comme interlocuteur des créatures libres et responsables. Quand ces créatures font le mal, il les exhorte à choisir la vie, non pas la mort, mais sauf cas d'intervention bien particulière, mais si Dieu intervient, ce n'est pas pour des raisons numériques, si vous voulez, c'est pour toujours des raisons pédagogiques. Et je pense que nous pouvons méditer cette non-résistance par la puissance, qui est d'ailleurs aussi également ce qui arrive à Jésus pendant sa tentation au désert. Sans faire la leçon à personne, une méditation équilibrée sur la terrible énigme du mal, que je ne prétends pas résoudre, il y a évidemment un mystère du mal. Mais en tout cas, en aucun cas, je pense qu'un être humain n'a le droit d'instrumentaliser les victimes des tsunamis et des génocides pour dire « Dieu n'est pas intervenu, donc c'est qu'il ne peut pas intervenir ». Mais encore une fois, comme réaction émotive, je pense qu'elle est tout à fait respectable. Et d'ailleurs, la prière des psaumes prend souvent cet accent de reproche, et je pense qu'il est normal, il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour crier contre Dieu, mais il y a aussi un temps pour reconnaître qu'il est le maître, qu'il est tout-puissant, et que la lune et les étoiles sont entre ses mains, et que toute l'humanité, sans être jamais manipulée, est néanmoins dans sa main. Une main qui laisse s'épanouir la liberté humaine, mais ce n'est pas une liberté pour rien, hein. C'est une liberté qui éduque la responsabilité de l'homme et qui l'éduque au choix ultime. Est-ce que je veux, oui ou non, rentrer dans la joie du maître tout-puissant ?